The narrow road to life eternal.
Donc, le chemin étroit vers la vie éternelle. Témoignage de Lydia Doubé, comme raconté par Erlo Stegen. Cours pour recevoir. Elle s'est retrouvée alors sur le terrain de sport et on lui a alors dit « Maintenant, cours, mais pas seulement pour atteindre la ligne d'arrivée, mais pour arriver premier et recevoir la récompense » selon 1 Corinthiens 9, verset 24 et 2 Timothée 2, verset 5. Celui qui ne pouvait pas courir en donnant toutes ses forces ne pouvait pas continuer sur cette route étroite. Ceux qui reçurent la récompense pouvaient monter alors au sommet de la montagne de Dieu. Dans ce lieu saint, ils pouvaient se présenter devant la majesté de Dieu et recevoir alors sa bénédiction et sa justice. Seuls ceux-là étaient considérés comme ceux qui le cherchaient, cherchant le visage du Dieu de Jacob, selon Psaume 24, versets 3, 5 et 6. La commission de contrôle. Par la grâce de Dieu, Lydia passa même ce test. Mais cependant, le test du principal point d'examen n'était pas encore terminé. Des gens de diverses professions, comme des théologiens, des enseignants, des médecins, des juges, des militaires, des vendeurs, des gestionnaires et d'ordinaires travailleurs. Tous ont comparu alors devant la commission de contrôle, dont le président était quelqu'un vêtu d'un vêtement blanc avec une ceinture dorée, selon Apocalypse, chapitre 1, verset 13. À la lumière de l'éternité et à la lumière du jugement de Dieu, toutes leurs actions accomplies au cours de leur travail ou service ont été mises à nu. Par exemple, un pasteur d'une certaine congrégation fut appelé en premier. Au même moment, toute l'assemblée à laquelle il avait prêché au cours de sa vie est apparu devant lui. Alors, on dit au prédicateur, « Maintenant, prêche !» Après avoir obéi et commencé à prêcher, le livre fut ouvert et ses paroles furent alors comparées à celles qui ont été trouvées dans le livre. Et lorsque le prédicateur disait quelque chose qui n'était pas dans le livre ou en accord avec les notes du livre, alors une remarque était immédiatement faite, incorrecte. De plus, sa propre vie était également comparée à ce qu'il prêchait. Les paroles qu'il avait dites aux autres furent comparés à sa vie, à son comportement, à la maison, avec sa famille ou au travail. Pendant que le prédicateur était examiné, la lumière de Dieu éclairait les membres de l'assemblée. Tout ce qui était couvert et secret chez chaque membre était maintenant révélé, visible. Les péchés couverts furent découverts. Les pensées, les intentions secrètes furent également découvertes, révélées. Et les réactions de chacun à ceci ou à cela furent aussi clairement visibles. Les pensées de chacun et tout ce qui était caché aux yeux charnels, aux yeux humains, étaient désormais lisibles sur le sein de chacun comme un livre ouvert. Par exemple, un homme était assis dans la congrégation et son esprit était en train de rêver. Un second regardait nerveusement sa montre en se disant, avec colère, « Bon, quand est-ce va-t-il finir enfin ce sermon ? Il est temps de s'arrêter. » Un troisième entendait les paroles accusatrices du prédicateur, mais protestait avec indignation dans son cœur en disant « Non, je ne peux tout simplement pas écouter cela. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Ce n'est pas possible. » Le quatrième était assis au fond, sur le banc, piquait du nez, et sa tête baissait de plus en plus, s'endormant littéralement. Tout ce qui se passait alors était enregistré dans ce livre. Ce livre qui sera un document décisif au jour du jugement, où chacun devra rendre compte pour sa vie. Ensuite, les gens de diverses professions ont commencé alors à se présenter devant le comité. Les professeurs devaient rendre compte s'ils avaient utilisé leur autorité correctement ou non, s'ils avaient impacté négativement le moral de leurs élèves ou non. Aux médecins, on leur demandait s'ils avaient été miséricordieux, compatissants, gentils, nobles à l'égard de leurs patients. Est-ce qu'ils avaient fait tout ce qui était à leur pouvoir pour eux ? Tous les verdicts, les jugements et les conclusions des juges terrestres furent examinés comme au microscope, pour savoir s'ils avaient outrepassé leurs droits ou jugé correctement. Si le jugement d'un juge était trouvé injuste à la lumière éternelle, alors cette personne était retranchée. Lorsque le moment fut venu d'examiner les comptes des vendeurs, des marchands, d'une variété de différents travailleurs, alors beaucoup de supercheries, de malhonnêtetés, de fraudes, petites et grandes, furent découvertes, furent révélées. La négligence, la paresse, le vol, les spéculations diverses furent exposées. Et fuir ou se cacher de cette lumière éternelle n'était pas possible. on ne montra pas à Lydia ce qui arriva aux personnes dont les comptes ne furent pas approuvés par le comité. Peut-être le saurons-nous dans l'éternité. La chose la plus incroyable est que ces personnes avaient déjà été sur le chemin étroit depuis un certain temps, comme Lydia. Ils avaient également surmonté de nombreuses difficultés et obstacles. N'y a-t-il pas quelque chose là à méditer, quelque chose de fondamental à revoir et à examiner? Alors, une fois passées les difficultés, les tests et les derniers examens du poste de contrôle, Lydia se rapprochait de la ligne d'arrivée. Alors, section suivante. Qui veut venir avec nous? Soudain, un groupe de personnes portant des robes blanches apparut. Ils se tenaient la main et se rapprochaient d'elle. Le leader de ce groupe se démarquait des autres avec une robe à la lumière extraordinaire. Dans sa main, il tenait un livre. Et les autres le suivaient comme des soldats, audacieux, déterminés. Le travail de ce groupe était de rassembler tous ceux qui avaient réussi les examens. Mais pourtant, ils ne forçaient personne à les suivre. Mais ces êtres brillants criaient haut et fort : « Qui veut venir avec nous ?» Lydia se plaça dans la file en dernier et suivit le groupe. Et après un petit moment, ils arrivèrent dans un endroit vraiment magnifique. Alors le leader appela tout le monde à prier. Chacun soumettait ses désirs et ses demandes au Seigneur. Lydia alors remarqua que tout le monde ne pensait plus aux choses terrestres dans ses prières. Tous leurs désirs étaient dirigés vers l'avenir et les cœurs n'étaient remplis que de la volonté du Seigneur. Alors Lydia a prié le Père Céleste en disant « Seigneur, permets-moi d'être fidèle dans ce que tu as déterminé pour moi, afin que je puisse accomplir chaque parole que tu m'ordonneras de faire. » La jeune fille elle-même ne réalisait même pas ce qu'elle demandait. Cela reflétait son ignorance d'un appel supérieur, de la volonté de Dieu. Et pendant sa prière, le leader du groupe enregistrait tout dans son livre. Au milieu de ce groupe, Lydia reconnut deux personnes de sa tribu. Cela était quelque peu extraordinaire pour Lydia. Elle connaissait ces chants, ces gens. Elle savait qu'ils appartenaient à la tribu Zoulou, mais pourtant leur visage était tellement changé qu'elle ne pouvait pas les reconnaître. Tout cela est vraiment difficile à expliquer avec des mots. Néanmoins, tout ce que Lydia a traversé montre clairement qu'en dehors de la vie terrestre, il en existe une autre. C'est vraiment une manière d'exister, de communiquer, complètement nouvelle, qui nous paraît complètement incompréhensible pour notre esprit humain terrestre. Alors que Lydia s'approchait de la cité céleste, de précieuses vérités lui étaient révélées l'une après l'autre. Ils peuvent être d'excellentes leçons pour nous. Par exemple, on lui a dit la chose suivante. Maintenant, tu entres dans une ville dans laquelle personne ne peut entrer à moins que leur péché ne soit pardonné. Dans cette ville, tout le monde vit en parfaite harmonie, ne louant et ne glorifiant que le Seigneur Jésus-Christ. Seulement ceux qui ont été fidèles au Christ et qui en tout l'ont suivi peuvent entrer dans cette cité. Ceux qui parlent des péchés des autres, qui les jugent, qui ne se sont pas repentis pendant qu'ils vivaient sur la terre, ne peuvent pas entrer. Quiconque veut entrer dans cette cité céleste doit avoir obéi à l'appel du Seigneur. Quiconque veut entrer au ciel doit avoir reconnu la volonté de Christ comme gouvernant la sienne sur terre. Lorsque le Seigneur, pour une raison ou pour une autre, rejette un souhait, alors la personne doit être prête à rejeter aussi ce souhait. Et quand le Seigneur bénit quelque chose, alors cette personne doit aussi bénir cette chose. Aucun hypocrite, aucun orgueilleux ne peut entrer dans la cité céleste de notre Seigneur et Roi. Bien que Lydia ait entendu bien plus, beaucoup plus de choses, elle était incapable de se souvenir de tout. Mais néanmoins, ce que nous avons entendu et reçu était déjà suffisant. Nous devons aussi nous poser la question que nous avons dans Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de leur colère est venu. Qui peut subsister? La ligne d'arrivée. À ce moment, Lydia a atteint la ligne d'arrivée. Un ange à l'éclat brillant se tenait à la porte du ciel et lui tendit la main. À ce moment même, ceux qui étaient autour du lit l'entendirent crier « Un ange est là, il m'appelle. Est-ce que tu ne le vois pas? Il est toujours là. » Ce furent là ses derniers mots. Elle a ensuite fermé les yeux et est devenue silencieuse. Sa respiration s'arrêta, son pouls n'était plus. Ses lèvres et le bout de ses doigts commençaient à devenir bleus. Lydia était morte. Ce jour-là, le 8 avril 1973 à 15h. Ses amis, alors, se sont agenouillés à côté de son lit en pleurant et en priant. Mais ils ne priaient pas pour sa résurrection, ils n'y pensaient même pas. Ils priaient simplement « Cher Seigneur, elle nous a été d'une aide incroyable. Qui comblera ce vide? Qui va prendre sa place ?» La résurrection de Lydia. Un des parents de Lydia a porté les vêtements funéraires. Son corps a été alors lavé et préparé pour l'enterrement. Les funérailles devaient avoir lieu le lendemain matin. Et ce soir-là, tout le monde est parti. Pourtant, on avait laissé une lumière allumée dans la chambre où elle était toujours allongée. Une de nos collègues, une femme noire, avait le désir de rester avec la défunte jusqu'au matin. Il était très tard dans la nuit lorsque la chose suivante eut lieu. Soudainement, Lydia bougea dans son lit, puis se releva et s'assit dans son lit. « Oh mon Dieu, il fait si sombre ici !» s'exclama-t-elle alors, regardant autour d'elle d'un air plutôt perplexe. « Tout ici est si sale et sombre !» Et regardez-moi ces murs sales. Plus tard, elle nous a expliqué qu'après son retour sur terre, tout semblait si sale et sombre par rapport à ce qu'elle avait vu au ciel. Se tournant alors vers son amie, sa collègue, Lydia lui a demandé alors quelque chose à manger et à boire. Ceci pourtant après 10 à 15 jours où elle n'avait pu rien mettre dans la bouche. Après avoir fini de manger et de boire, elle se leva du lit et fit le tour de la pièce. Marcher était un sentiment tellement incroyable pour elle, en particulier après avoir été confinée si longtemps dans un lit, sans être capable de marcher. Ses forces sont rapidement revenues, elle n'avait plus de douleur physique, et en fait elle se sentait en assez bonne santé. À l'intérieur de la vie céleste. À ce stade, je voudrais partager avec vous le récit de Lydia sur ce qui s'est passé lorsque l'ange est apparu. Au moment où il lui a tendu la main, il l'a pris et elle sentit alors comme un choc dans son corps. C'était le moment où son esprit a quitté son corps terrestre. La première personne qu'elle a rencontré au ciel était le Christ, lui-même, qui l'a salué alors. Lydia a vu beaucoup de gens à ce moment-là en robe brillante et elle a reçu exactement ce même type de robe blanche. Bien qu'il n'y ait pas de soleil ou d'autres sources de lumière, la ville céleste est pourtant remplie d'une lumière indescriptible. Jésus lui-même était cette lumière qui pénètre tout et révèle même les choses que les gens d'ordinaire ne peuvent pas voir. Cette lumière qui resplendissait n'était ni en déclin, ni couchant. Et c'est pourquoi il n'y avait plus de nuit. Il n'y avait pas non plus de grande chaleur, ni de froid. Et les gens qui entouraient Lydia provenaient de tous les pays de la terre, avec la plus grande variété de langues. Pourtant, ils pouvaient se comprendre en parlant de beaux dialectes sonores que tous ceux qui entraient dans la ville comprenaient. Il n'y avait plus de race ou de couleur de peau, de couleur de peau différente. Il n'y avait aucune différence d'opinion ou de point de vue. Tout le monde était uni et une harmonie indescriptible régnait et une paix céleste réunissait tout le monde. Au milieu de ces habitants célestes, il n'y avait plus aucune différence entre homme ou femme. Tout le monde était du même sexe. C'était quelque chose, un mode de vie nouveau et inconnu que Lydia était incapable de décrire. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a dit lui-même : « En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges » qui sont dans le ciel, selon Matthieu 22, verset 30. Les habitants de cette ville céleste vivent magnifiquement. Leur maison, leur habitation était indescriptible. Ce qui rappelle la parole aussi du Christ dans Jean 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Au centre de la ville, il y avait une énorme salle avec un magnifique trône, et sur lequel était assis un agneau magnifique. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, dans toute sa majestueuse gloire. Le visage du Seigneur brillait si fortement qu'il était aveuglant et personne ne pouvait le regarder directement. Tout le monde baissait les yeux, s'agenouillait devant lui en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Tout était rempli du chant des armées célestes. Aucun mot terrestre ne peut décrire ces choses célestes. Rencontre avec le Seigneur. Après le chant, le Seigneur a alors commencé à inviter tout le monde à venir à lui. Il a donné à chacun trois fruits ressemblant à des raisins. Même Lydia a reçu ses fruits. Quand elle les mangea, elle sentit comme un afflux de forces inconnues à l'intérieur de son être. L'amour véritable régnait parmi les habitants de cette ville céleste. Tout le monde était prévenant, respectueux les uns des autres. L'attitude envers les adultes ou les enfants était la même. Personne ne parlait en même temps. Il n'y avait aucune agitation. La paix et la tranquillité de Dieu régnaient partout. Les pensées, les désirs de chacun étaient dirigés vers le trône. Tout le monde prêtait attention à ce que Jésus disait. Plus personne ne suivait son propre chemin. Les yeux de chacun, de tout le monde, étaient fixés sur celui qui était assis sur ce trône. Sa gloire était si grande que tout ce qui était arrivé sur terre était oublié. Les larmes, la tristesse, le chagrin, la souffrance et les offenses étaient oubliées. Soudain, le Seigneur a appelé Lydia et lui a dit: « Tes amis sur terre pleurent. Je veux te renvoyer. » Même si elle était très bien au ciel, elle n'a pas résisté d'aucune manière à la volonté du Seigneur. Comme précédemment, elle était prête à accomplir sa volonté et à repartir, même immédiatement. Mais elle a eu alors une demande. « Si je dois retourner une fois de plus sur terre, alors s'il te plaît, ne laisse rien s'interposer entre nous qui nous diviserait. Même si le plus petit des péchés entrait dans mon cœur et dans ma vie, alors avec ton amour, ta grâce, montre-le-moi, afin que je puisse mettre les choses en ordre le plus tôt possible. » Accorde-moi d'être avec toi sur terre, comme je suis maintenant uni à toi ici au ciel. Avant que Lydia ne quitte la ville céleste, le Seigneur lui montra une grosse balle et lui dit: Lydia, les gens sur terre pensent qu'ils peuvent me cacher les choses, garder les choses secrètes. Eh bien, regarde cette balle. Lorsque Lydia examina cette balle, ce ballon, elle a vu la terre, des masses de gens ressemblant à de minuscules fourmis couraient de ci et de là. Ils se mordaient, s'injuriaient, se battaient, se disputaient. Ils étaient jaloux entre eux, haineux, calomniant l'un l'autre et se trompant les uns les autres. Et oh, comment ils essayaient de cacher les choses. Mais pourtant, rien, vraiment rien, ne pouvait être caché à l'observateur céleste, comme cela est confirmé par la parole de Dieu dans Daniel chapitre 2, versets 22 et 28. Il révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière habite avec lui. Mais il y a un Dieu dans le sel qui révèle les secrets. Et tu les as fait connaître, ô toi, au roi Nebuchadnezzar. Et il t'a révélé ce qui sera dans les derniers jours. Aussi un autre verset dans Matthieu, chapitre 10, verset 26. N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Tout ce qui est caché finira par être connu. La vie qui est vécue au ciel, la vie céleste, n'est pas la même genre de vie que celle qui est vécue ici, sur terre. Il n'y a rien qui ne peut être caché, qui ne peut être secret au ciel. Toute chose est visible, peut être vue de manière claire. Ici, sur terre, nous pouvons être assis l'un derrière l'autre et ne pas voir qui est assis derrière. Mais au ciel, non, ce n'est pas comme ça. Tout est visible, comme transparent. Dans ce monde, nous pouvons fermer les rideaux, fermer la fenêtre, fermer la porte en pensant « Maintenant, personne ne peut me voir. » Mais au ciel, tout est visible. Et la vie qui est vécue au ciel est comme unique. Tout le monde est un, uni. Chacun là-haut est comme en fréquence avec le Seigneur, en disant, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu veux ?» Quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas vu ni blanc, ni noir, ni métis ou indien. Mais c'était des corps différents. Ce sont des corps qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Une autre chose dans ce monde. Ici, sur terre, nous voyons le sourire de la personne, mais là-haut, nous voyons non seulement le sourire, mais aussi le cœur de la personne. Nous pouvons peut-être être bénis par le sourire de quelqu'un, mais là-haut, on voit le cœur et l'intention du cœur. Alors la terre, depuis là-haut, a l'air d'une comme un ballon, une balle. Et le Seigneur m'a alors dit, examine, regarde. Et il m'a dit, tu vois, cette femme, elle est contrariée, en colère, agacée. cause de son mari. Et alors le Seigneur a pris cette amertume, a pris cet agacement, et c'est comme s'il le sortait du cœur et le collait sur la poitrine. Et ainsi, on pouvait voir, on pouvait lire les pensées de chacun. Le Seigneur révèle chaque pensée, chaque chose. Et alors il m'a dit, tu vois, les hommes, les humains peuvent cacher des choses, mais ils ne se rendent pas compte que rien ne peut être caché pour moi. Et donc ce que je peux raconter, c'est que oui, nous lisons dans la Bible que nous devons être saints comme le Seigneur est saint. C'est ce qu'il écrit, ce qui est écrit dans la parole, et que nous devons nous séparer de l'iniquité. Mais depuis cette époque, ce moment-là, je vois d'une manière différente. Je le vois d'un angle différent, d'une manière que je n'avais réalisé. Et voilà ce que je voulais souligner, mentionner. Même si c'est une petite chose dans le cœur, peut-être un agacement que tu gardes dans le cœur, c'est pourtant quelque chose de grand que le Seigneur révèle. Et peut-être les autres ne le voient pas, mais pour le Seigneur, c'est quelque chose d'important. Et le Seigneur ne veut aucune hypocrisie. Ce que tu dis doit être la vérité. Quand j'ai entendu ces choses de la part de Lydia, je lui ai alors demandé, « Dis-moi, n'es-tu pas choqué ou n'as-tu pas été attristé quand tu as entendu le Seigneur vouloir te renvoyer ?» Alors elle m'a répondu, quoi ? Choqué ? Triste ? Comment cela peut-il être ? Connaître la volonté du Seigneur, l'accomplir, eh bien c'est tout simplement céleste. Voilà un privilège extrêmement satisfaisant. Entre. Et marche. Mes chers amis, le Seigneur nous parle et ses paroles sont comme un commandement lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite, marchez sur le chemin étroit ». La volonté de Dieu est de nous sauver et de nous donner, nous accorder la vie éternelle. Ne pas accomplir sa volonté, c'est se condamner soi-même à la condamnation éternelle et aux souffrances inimaginables. Alors, une fois pour toutes, choisis le chemin étroit. Néanmoins, nous ne devons pas oublier que ce chemin étroit est un chemin de purification. C'est un chemin de guerre, de bataille et de victoire sur le péché. Ceux qui participent, ceux qui marchent sur ce chemin ne peuvent pas mélanger le christianisme et le monde. Voilà ce qui a été montré à Lydia. L'homme qui est sur ce chemin étroit et qui mélange la farine et le sucre, et lorsque le Seigneur lui a alors demandé de séparer les deux, il n'a pas pu. Les gens ont tendance à mélanger le christianisme avec diverses choses qui leur plaisent, mais le Seigneur ne les défendra pas. Le chemin étroit est cette façon de suivre le Christ, et dès que nous voulons marcher sur ce chemin, il est inévitable que nous devions passer par la porte étroite en laissant derrière nous tout ce qui nous lie avec le monde. Dans Matthieu 7, verset 14, il est dit « Étroite est la porte, difficile le sentier qui mène à la vie. Ah, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Oui, c'est vrai qu'il y en a peu qui le trouvent. Les esprits doubles, les cœurs superficiels ne peuvent pas trouver ce chemin. Ceux qui prennent le christianisme de manière légère, qui s'arrêtent aux apparences, sont aussi incapables de trouver cette porte et ce chemin étroit. Seuls ceux qui ne comptent sur rien et qui recherchent la vérité de tout leur cœur trouveront ce chemin. Comme il est facile de dire « Oui, nous sommes tous les enfants de Christ, un jour nous nous rencontrerons tous à ses pieds. » Oui, c'est là ce que nous pensons tous en nous assurant de sa vérité. Mais venons, voyons ce que le Seigneur a à dire sur ce sujet. Dans Psaume 24, au verset 3, il nous pose à tous une question qui nous semble bien étrange pour nous à comprendre. Verset dit « Qui montera sur la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans son lieu saint ?» Ce mot court qui dit « qui est utilisé au singulier, donne l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup. Oh, que le Seigneur nous accorde de trouver cette porte étroite et ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle pendant notre vie et d'y rester sur ce chemin jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 3, le Seigneur Apocalypse 3, verset 5, il est dit « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. » Et verset 21, il est dit « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. » À toi de décider. Chers amis, je suis conscient qu'après avoir partagé ce témoignage, je devrais rendre compte de chaque mot. Après avoir traversé une telle expérience, vous pouvez comprendre pourquoi je parle comme je le fais. Je dois dire la vérité, qu'elle soit lourde ou amère ou pas. Je dois le faire, même si vous me tournez le dos et vous me disiez « Je n'en veux plus, je ne veux pas entendre de telles choses. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre de telles choses, de tels sermons ne sont pas agréables. » Vous êtes libre de décider comme vous le souhaitez. Moi, quant à moi, je dois être fidèle à ce que le Seigneur me demande. Je sais qu'un jour viendra où je devrai me présenter devant le juge de tous les juges, et alors il me demandera « Herlo, as-tu été fidèle? As-tu dit aux gens ce que j'attendais de toi? Ou est-ce que tu voulais être loué simplement par eux et leur dire des choses agréables ?» Penses-tu que si je me conforme aux souhaits des gens, je vais alors pouvoir gagner l'amour du Seigneur? Non, il n'en est pas ainsi. C'est pourquoi je ne peux pas faire autrement. Et toi, mon ami, mes amis, est-ce que vous ne voulez pas être avec ces gens qui suivent Christ en vérité? Est-ce que tu ne veux pas renoncer à tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur pour toi dans la vie, afin de suivre et de gagner Christ? L'apôtre Paul a écrit « Je considère toute chose comme une perte à cause de la connaissance de Christ. » Donc dans Philippiens, chapitre 3, verset 8. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de tout mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous, tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En conclusion, ce que Lydia a expérimenté avant et après sa mort sera comme des perles. Mais pour d'autres, cela sera un objet de controverse, par lequel ils essaieront de persuader les autres que ce n'est pas vrai. Peut-être cela sera un produit, ils diront que cela est un produit de pensée, d'imagination. Je comprends parfaitement pourquoi un tel récit ne plaît pas au diable. Ce qui a été montré à Lydia est l'image claire d'un croyant qui suit le Seigneur et qui marche avec lui. Ce n'est que au travers de telles choses qu'un réveil spirituel peut se produire, un réveil qui est alors le résultat véritable d'une vie en accord avec le Seigneur et avec le Christ. Alors, jeunes gens, père, mère, nous avons entendu ce soir dans ce récit que essayer de s'enfuir, de se cacher de cette lumière n'est pas possible. Ta jalousie, ta haine, tes mensonges, ton vol, tes médisances, toutes ces choses sont claires, visibles et évidentes au Seigneur. Ma Bible nous dit, aujourd'hui, quand tu entends la voix du Seigneur, quand tu entends la parole du Seigneur, alors n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que tu n'as pas ce désir d'avoir ton nom là, écrit dans ce livre de vie? Aujourd'hui est le jour encore où tu as cette opportunité, tu as cette occasion. Ne garde pas ton péché. Repente-toi, confesse, mets à la lumière ces choses aujourd'hui, afin qu'un jour tu puisses aussi recevoir cette robe blanche. Nous voulons demander à Baba Doubé de venir pour prier et pour information, ce témoignage, ce récit est disponible sous la forme d'un petit livre, donc qui est disponible désormais à la mission, qui vient d'être publié et qui est disponible pour le prix modique de 40 randes, équivalent de 2 euros. Avant de prier, Lydia, ma sœur, quand on m'a dit qu'elle est décédée, donc j'ai dû rentrer à la maison pour dire à la famille que ma sœur est décédée, qu'elle est décédée. Et j'ai alors versé beaucoup de larmes en chemin. Donc je suis rentré à la maison, j'ai vu mon père, et j'ai dit à mon père: « Papa, On m'a demandé de t'emmener à Kranskop parce que ta fille est décédée. Donc pour ceux qui connaissent notre région, quand vous sortez de la mission et vous montez en direction de Greytown, et à un moment donné, ils ont un croisement. Si vous prenez à droite, c'est la route vers le Kop, qui est une colline connue, et là, il y a une ferme. Et lorsqu'elle a ressuscité, nous avons été témoins, s'il était visible, et nous pouvons témoigner que s'agissait d'une personne qui avait rencontré le Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'elle soit à l'initiative des premiers camps de jeûne. Le camp de jeûne que nous avons cette semaine a été à son initiative pour prêcher l'évangile aux blancs, aux noirs, aux indiens, à tous. Et ainsi, dès le départ, tous les jeunes étaient ensemble. Même Dietmar, qui se tient là, était là lors du premier camp de jeûne. Et plus tard, le Seigneur lui a aussi révélé ou montré de commencer ce ministère parmi ces jeunes des rues. Et au début, c'était juste un combi, un bus, minibus, qui allait ramasser dans les rues ces jeunes, les inviter à la mission. Mais après quelques temps, c'est les jeunes eux-mêmes qui se sont présentés à la mission, qui venaient à la mission. Alors laissez-moi encore un peu de temps. Mon père était confronté aussi à ces fléaux. Laissez-moi raconter que mon père était impliqué, il vendait de tabac et de l'alcool. Et alors, à l'époque, il a eu un rêve. Donc, à l'époque, nous n'avions pas de baignoire, vous aviez juste un bac pour se laver. Mais le matin, après avoir rêvé, ma maman lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu transpires à grosses gouttes dès le matin ?» Et alors, il lui a dit « Amène-moi un bassin avec un peu d'eau que je me lave le visage et alors je te raconterai. » Et il lui a raconté « Je te raconte le rêve que j'ai eu. J'ai rêvé que j'emmenais une personne jusqu'en enfer. Et alors que j'étais là, quelqu'un m'a dit « Parce que tu vends de l'alcool et du tabac, tu finiras un jour dans cet endroit, en enfer. » Et ensuite, il a été emmené dans une merveilleuse maison. Et la voix lui a dit, dans son rêve, « Si tu arrêtes, si tu te repens de ces choses, alors un jour tu habiteras dans cette maison. » Et après avoir eu ce rêve, il est allé à Mapumule pour voir, rencontrer le révérend, le pasteur Stegen, et lui a dit « J'ai arrêté de vendre la cigarette, le tabac et l'alcool. » Et alors le pasteur Stegen lui a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et alors il a dit au pasteur, « Pasteur, je ne veux pas finir dans cet endroit. » C'est pourquoi, si un chrétien a un magasin, il ne peut pas vendre du tabac et de l'alcool. C'est pourquoi, si vous allez dans les magasins de nos frères chrétiens, à Donnybrook ou Harding, ils ne peuvent pas vendre, ils n'ont pas la liberté de vendre le tabac et l'alcool. Mais les gens se sont rassemblés autour de mon père. Ils n'étaient pas contents qu'il ait arrêté de vendre le tabac et l'alcool. Et alors on a convoqué une réunion avec les dirigeants de la communauté, les leaders. Et alors mon père leur a raconté pourquoi il avait arrêté de vendre le tabac et l'alcool. Et alors les gens ont dit, ah ben si c'est comme ça, ce magasin n'est pas pour nous. Nous ne viendrons pas acheter dans ton magasin. Mais le leader, le dirigeant de la région, était un homme sage. Et alors il a dit aux autres, le monsieur Doubé, il écoute l'esprit supérieur, parce que c'est un homme qui croyait aux esprits des ancêtres. Et alors il a dit, si il fait ce que l'esprit supérieur lui dit, alors on peut pas aller contre lui. Et ainsi, c'est comme ça que mon père a pu arrêter de vendre le tabac et l'alcool. On l'a prié. Notre Père qui est au ciel, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir entendu ces choses, ce récit aujourd'hui. Seigneur, si tu ne nous avais pas sauvés de nos péchés, alors nous serions comme des eaux desséchées dans une tombe. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous la grâce de marcher sur ce chemin étroit, que nous puissions mettre nos pas dans les tiens. Même si c'est un chemin difficile, un chemin pentu qui monte, que tu puisses nous aider, que à chaque instant tu puisses nous sanctifier, que nous ne quittions pas ce chemin que nous devons marcher. Tu nous as accordé l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que nous puissions purifier nos cœurs afin de marcher sur ce chemin étroit. Amen.